respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique.
On s'amuse à aménager, mais enfin, ça n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se contenter d'habiter, de cohabiter, de discuter. Moi, je parle du dialogue.
Eh bien, bonjour Bernard.
Bonjour Audrey.
Pour cette 7e émission de Territorialité, nous allons parler de démocratie locale, de démocratie participative et même de démocratie directe.
C'était comment ces débuts? Est-ce que tu avais le sentiment de vivre une révolution?
Quand on dit on veut changer le système, on veut changer quoi en fin de compte? Personne ne sait, mais quand on dit... Moi, je suis pour le peuple, je suis pour que les habitants s'expriment. Comment on le fait concrètement?
Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important qu'on mette toutes les énergies à changer les choses, de l'intérieur et de l'extérieur.
J'ai regardé les municipalités d'avant, dans d'autres villes et villages dans lesquels j'ai vécu, et j'avais pas ce sentiment de printemps là, constant, ça pousse dans tous les sens.
Et oui, vous avez tous reconnu des personnes en fait de Saillant, pour ceux qui ont pu voir le documentaire sur la République de Saillant. Comment ne pas évoquer effectivement cette expérience de cette petite commune de la vallée de la Drôme qui a élu une liste citoyenne sans candidat lors des élections municipales de 2014.
C'est vrai que pour nous qui sommes drômois, c'est une expérience qui nous a d'autant plus marqués, dont on est fiers. Il y a plusieurs protagonistes qui ressortent de cette belle expérience, notamment Vincent Béillard, qui était co-maire, et puis Tristan Rechid. Je vous propose qu'on fasse un détour par une définition qui tient à cœur justement à Tristan. C'est le philosophe Paul Ricoeur qu'il cite sur son site « Démocratie vivante ». Paul Ricoeur dit... Et démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, l'analyse de ses contradictions et la mise en délibération de ses contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. Donc on voit bien là qu'on a une définition et une compréhension de la démocratie qui est beaucoup plus large et complexe de ce qu'on a l'habitude en fait de calquer sur ce terme-là, qui est souvent bien restrictif. Il y a aussi dans la démarche de Saillant une inversion un peu de paradigme, notamment à travers le rôle de... l'habitant et le rôle de l'élu. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça, Bernard ?
Ben oui, on voit bien sur Saillant qu'il n'y a pas finalement besoin d'être expert ou professionnel pour prendre part à la vie politique de sa commune. En fait, il faut considérer chaque habitant et que celui-ci dispose d'une expertise lui-même sur la gestion de sa commune, parce qu'en fait, il en a l'usage. Il n'y a pas de relation hiérarchique, il n'y a pas de barrière entre les élus et les habitants, ni entre le maire et les conseillers municipaux, mais seulement un partage. Voilà. Il ne s'agit plus d'un pouvoir sur, mais d'un pouvoir avec.
Et dans les faits, ça suppose justement de définir ou redéfinir des rôles pour les élus, les habitants, les experts, les animateurs et tous les acteurs de l'aventure municipale. L'idée, c'est que la commune fonctionne dans la complémentarité des rôles de chacun des protagonistes. Il ne s'agit plus d'opposer les uns aux autres, mais de créer les conditions d'une coopération juste et efficace entre tous ces acteurs indispensables à la délibération. C'est un terme aussi sur lequel on va revenir un petit peu. La proposition, c'est de sortir d'un monde qui oppose experts versus profanes, élus versus habitants, animateurs versus participants, et de mettre en musique justement la complémentarité des approches. On revient un petit peu sur cette notion de délibération qui est
tout
vraiment au centre.
Alors c'est effectivement très important. Une démocratie délibérative, en fait, c'est un régime dans lequel l'exercice du pouvoir va passer dans l'échange public d'opinions, d'informations et d'arguments entre des citoyens qui sont égaux en vue de la prise de décision. En fait, la délibération, c'est une discussion entre les citoyens en vue d'une décision à prendre collectivement.
Et pour aller un petit peu plus loin dans, je dirais, l'affiliation de cette expérience de Saillant, j'ai eu envie, en préparant cette émission, d'aller faire un tour du côté de Bookchin. Bookchin, c'est un penseur américain qui est né en 1921, mort en 2006. Il est considéré comme le fondateur de l'écologie sociale, une école de pensée qui propose une nouvelle vision politique et philosophique du rapport entre l'être humain et son environnement, ainsi qu'une nouvelle organisation sociale par la mise en œuvre du municipalisme libertaire. Et il a rédigé un petit livre en 1984 qui a été réédité à de nombreuses reprises depuis, qui s'appelle « Pour un municipalisme libertaire ». On peut y lire « Un peuple dont la seule fonction est d'élire des délégués n'est pas en fait un peuple du tout. C'est une masse, une agglomération de monades. Monades comprendre unité d'individus. » Bookchin poursuit et parle de transformation de la masse en un corps politique, délibératif, rationnel et éthique. Les individus doivent pouvoir discourir entre eux directement en utilisant des modes d'expression qui vont au-delà des mots, raisonner entre eux en face à face, sans intermédiaire, et arriver ainsi pacifiquement à une communauté de vues qui rendent possible la décision et permettent une exécution de ces décisions qui ne contredisent pas les principes démocratiques. Voilà pour ce qui est d'extraits qui résonnent fortement avec des expériences comme, comme à Saillant. Et justement, il y a aussi des références à Rousseau de la part de Bookchin.
Tout à fait, Rousseau, auquel je me suis intéressé comme toi, Bookchin, pour cette émission. Rousseau nous dit que, en fait, il a insisté sur le fait que le pouvoir populaire, le pouvoir du peuple, ne peut se déléguer sans se détruire. En effet, la démocratie représentative, c'est une contradiction en soi. Si le peuple se choisit un remplaçant, s'exclut des discours, des réflexions et des prises de décision, il n'y a plus de politis, au sens grec du terme.
Eh bien, on arrive à la fin de cette première partie introductive. On va laisser décanter un petit peu tout ça en écoutant « Danser encore » de HK et les Saltimbanques.
Jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut
d'accord. Passer nos vies sur une grille, d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille, d'accord. Passer nos vies sur une grille, d'accord.
Nous écoutions Danser encore de HK et les Saltimbanques. Comment ne pas parler de démocratie participative sans évoquer les dernières élections municipales qui remontent déjà à l'année dernière, en 2020, où de nombreuses listes citoyennes se sont présentées. Certaines d'ailleurs ont été élues.
On fait un vote à main levée ou quoi? Alors qui est pour qui est pour? Qui est contre? Allez, on laisse comme ça la majorité, c'est réglé.
C'est vrai qu'au départ, on n'était pas, il y avait plutôt un engouement. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on a gouverné autrement, est venu les premières critiques, les choses comme ça.
J'ai l'impression que ça fait un clivage.
On ne les aborde pas, les questions qui fâchent. C'est peut-être ça le problème.
Moi, je m'y retrouverais plus s'il y avait une ligne politique plus forte.
Bah, est-ce qu'on arrive à prendre des décisions, en fait? Est-ce qu'on arrive à prendre des vraies grandes décisions avec ce système-là?
Thank you. Est-ce que tu te présenteras aux prochaines élections?
Ah, pas du tout.
En tant que maire?
On entendait, entre autres, l'ancien maire de Saillant et puis plusieurs habitants qui ont participé activement aux différentes réunions publiques qui ont été organisées, notamment dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme de Saillant. Je vous propose donc, comme suggéré, qu'on revienne un peu sur cette grande période de campagne municipale de l'année dernière et qu'on s'attache à regarder les chiffres. L'estimation du nombre de listes citoyennes qui s'étaient présentées en 2020 oscille. Alors, c'est difficile de se mettre d'accord sur les chiffres de manière générale. Ça serait entre 244 listes et environ 400, d'après l'association Action Commune. On peut citer des listes citoyennes présentes puis élues dans des grandes villes, notamment à Toulouse, Nantes ou Montpellier, dans des villes moyennes comme Amiens, Brest ou Annecy, ou des plus petites communes comme Saint-Médard-en-Jalles près de Bordeaux. Alors, en termes de résultats, les chiffres varient aussi, de 66 listes qui ont gagné à une centaine. Bon, notons quand même au passage que la France est composée de 35 000 communes. Cependant, il y a là un phénomène émergent.
Oui, alors, beaucoup de candidats aux municipales de 2020 se sont effectivement présentés sous la bannière citoyenne, mais des fois en ajoutant simplement à leur liste des membres de la société civile. Voilà, donc c'est aussi, il faut voir, il y a un petit peu démocratie participative et démocratie participative. Des fois, c'est un peu un habillage, quoi. Ceci dit, il y a effectivement... il y a eu ces listes-là. Et qu'est-ce qui caractérise en fait une liste citoyenne, finalement, une vraie liste citoyenne,
ouais, d'une liste classique
où on rajoute juste quelqu'un de la société civile pour faire bien, quoi.
Bah, une des différences, ça concerne le programme. L'ADN des mouvements qu'on dit municipalistes, c'est de construire le programme avec les habitants à travers plusieurs réunions ou d'assemblées ouvertes. L'autre différence, c'est la façon de désigner les candidats. Les listes citoyennes qui arrivent à fonctionner sont celles qui parviennent à mettre de côté les tambouilles partisanes ou à faire accepter aux partis une transparence dans la désignation de tout ou partie des candidats, voire de la tête de liste, en ayant recours notamment à des outils comme le vote sans candidat. À présent, je suggère, Bernard, que nous laissions la parole à deux élus drômois qu'on a interviewé dernièrement, des élus justement de la commune de Dieulfi en Drôme provençale. Alors pourquoi justement? Parce que Dieulfi, c'est une commune où il y a eu une liste citoyenne qui s'est présentée et qui a gagné les élections il y a un an. Nous les avons rencontrés et on leur a posé la question de savoir s'ils s'inscrivaient, eux, dans la filiation de l'expérience de Saillant, qui est pas très loin de Dieulfi. On écoute Frédéric Sten, adjoint à la culture, au sport et à la vie associative de Dieulfi.
Pour ma part, je suis à un niveau de connaissance de Saillant différent des autres membres de l'équipe, puisqu'on a tous une expérience, des connaissances, des rencontres et des avis différents. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on ne veut pas reproduire, on s'est inspiré d'eux. Et on va mener notre petit bonhomme de chemin avec les expériences qu'on fait en contact avec les habitants. Là où moi, je suis devenu très prudent, c'est que je pense que le modèle de démocratie participative ne suffit pas en soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un travail avec les habitants et ça suffit. On est aussi obligé de tenir l'engagement qu'on a pris auprès des citoyens pour traiter des sujets dont on est pleinement responsable dans des temps différents, c'est-à-dire des choses en urgence, des choses à moyen terme, des choses à plus long terme. Et à chaque fois qu'on peut faire de la démocratie participative, on le fait. Et là, la situation Covid nous oblige à complètement adapter le système et à faire une forme de démocratie participative, mais qui est réduite, par exemple, à des personnes plus ciblées. Et on est obligé de communiquer avec ça, et ça fait des mécontents. et en même temps c'est une réalité. Donc il y a quelque chose de très pragmatique en fonction des réalités de terrain et des réalités de engager notre responsabilité dans cette conduite-là.
Alors, pour le coup, l'élu de Dieulfi qu'on entendait réagissait, je le rappelle, à la terminologie de démocratie participative. On n'est pas en train de parler de démocratie directe, en fait. C'est là où il y a un schisme entre Saillant et Dieulfi. C'est-à-dire que... à Dieulfi, ce qui se vit et ce qui s'expérimente, c'est plutôt des outils de démocratie participative, là où à Saillant, il y avait vraiment une volonté de partager et d'exercer le pouvoir différemment. Donc on l'aura compris, il y a une sorte de pragmatisme, voire de résignation, qui peut facilement prendre le dessus quand des habitants ou demeurants militants prennent le pouvoir. Cela pose la question fine du positionnement, Bernard. On comprend bien, dans le cas de Dieulfi, qu'il s'agit plus d'une transition douce que d'un véritable changement de paradigme. La question de la participation des habitants préoccupe les élus et nous leur avons aussi demandé quels outils, dans ce contexte sanitaire particulier, leur semblaient pertinents pour susciter la participation des habitants. On écoute à présent Marion Martin, qui est adjointe aux écoles à Dieulfi.
Donc c'est très variable. Et on s'est rendu compte, encore une fois de manière très pragmatique, qu'on ne pouvait pas avoir une conduite identique de démocratie participative avec tous les publics et avec tous les sujets. Donc là, si je prends un exemple qui est l'attribution des subventions aux associations, ce qui a été possible de faire, puisqu'on ne peut pas faire de grandes réunions publiques actuellement en raison du Covid, on a décidé de prendre des membres de la minorité, des élus de la minorité, des membres de la société civile, un groupe de 10 personnes au total, qui est un groupe de travail chargé d'examiner toutes les demandes et de faire des propositions aux élus, et de telle sorte que les élus ils soient complètement souverains dans leurs décisions. Mais en tout cas, on travaille ça en amont. Et ça fait 3 réunions, de grosses études, de gros dossiers à étudier, et tout le monde met vraiment la main à la pâte.
Mmh. Et c'est vrai qu'après, on étudie vraiment en fonction des besoins, des demandes des citoyens. Il y a des formes très différentes de démocratie participative qui se mettent en place. Il y a des sujets, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment des sujets où il y a un engouement, comme l'environnement, où il y a des groupes de travail qui marchent très bien, où les citoyens ont très envie de s'impliquer. Et après, il y a par exemple un projet sur un skatepark où là, du coup, c'est plus les jeunes, donc c'est plus difficile pour les atteindre, pour les faire venir en réunion, etc. Donc, on a fait quand même une première réunion, mais on fait une consultation numérique, par exemple, pour eux, où on passe par les réseaux sociaux, etc. Donc, on essaye vraiment d'être à l'écoute des besoins, des envies, et nous aussi, en fonction des dossiers qu'on a concrètement, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Alors, par rapport à ces témoignages d'élus qui se sont attachés à nous expliquer un petit peu les outils de démocratie participative qu'ils utilisent, je trouvais intéressant, Bernard, qu'on revienne, nous, sur une expérience. Alors, pour le coup, on n'a pas la chance d'aller au bout, puisqu'on a fait partie d'une liste citoyenne il y a un an qui s'appelait Valence en commun, mais qui n'a pas gagné. On a quand même 4 élus dans l'opposition, soulignons-le. On pourrait faire un petit exercice d'introspection pour répondre en partie à ces questions. Quel changement de paradigme, besoin d'acculturation de l'élu en responsabilité, militantisme, démocratie directe. De ton point de vue, en quoi l'expérience de cette liste citoyenne de Valence en commun, bien qu'elle n'ait pas été élue, différait des modèles traditionnels de représentation du pouvoir, de faire campagne et de rapport aux habitants?
Écoute, moi, je suis rentré dans cette liste justement parce que dans cette aventure, Parce qu'en fait, c'était une campagne qui, au départ, effectivement, était à l'initiative de partis politiques traditionnels. En l'occurrence, c'était Europe Écologie Les Verts et, entre autres, la France Insoumise. Mais qui souhaitait, en fait, d'emblée, associer des citoyens non encartés à raison de 50-50, hein, puisque l'idée, c'était d'avoir 50% de représentants de partis et 50% de citoyens, et ce qui s'est réalisé. Quitte à être bousculé, en fait, par des citoyens engagés avec des convictions ou des aspirations, mais qui ne sont pas forcément encartées. Mmh. Et ça a été, je trouve, très intéressant. C'est-à-dire que on avait effectivement tous des valeurs un peu communes dans cette liste, un socle commun. Mais en même temps, on venait de milieux très différents, d'histoires très différentes aussi. Donc on avait beaucoup de divergences. Et pourtant, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on a eu une grande liberté pour élaborer collectivement en fait, un programme, une campagne aussi, une façon de faire la campagne, une façon de communiquer. Mm-hmm. Et du coup, ça a créé vraiment quelque chose d'extrêmement dynamique.
Alors, si on zoome sur ce point précis, hein, c'est l'épine dorsale d'une campagne, a priori le programme d'un candidat ou d'une candidate. C'est traditionnellement le programme l'émanation d'un groupe de futurs élus. Avec une pointe de communication qui correspond à l'ère du temps, je fais référence aux enjeux environnementaux, à la cause animale qui a fait une percée manifeste lors des dernières élections municipales. Pour autant, le programme est classiquement bâti en comité réduit et présenté pour être réalisé par les futurs élus sans réelle concertation. Ce qui ressort de l'expérience de Valence en commun, c'est la volonté de puiser dans le vécu, les desiderata, les propositions des habitants, et donc de renverser les schémas habituels en proposant aux habitants, pendant la campagne, de participer à la construction, la co-construction d'un projet commun pour les 5 prochaines années que dure un mandat municipal. Alors comment on s'y est pris concrètement ? Il y a eu, au cours des 9 mois qu'a duré la campagne, une quinzaine de réunions publiques, auxquelles ont participé 350 personnes. Alors on peut relativiser, hein, puisque Valence est 65 000 habitants, mais il y a eu quand même 350 personnes différentes qui ont assisté, participé à ces réunions, et qui ont formulé 350 propositions. Ensuite, la tâche du comité de pilotage dont on faisait partie, de la liste Valence en commun, ça a été de fusionner, d'orchestrer, d'organiser ces propositions pour aboutir au final à 68 actions présentées à travers 3 axes qui étaient « Décidons ensemble, partageons simplement et respirons mieux », tout un programme en somme.
Tout à fait. En fait, la volonté de cette liste citoyenne, ça a été tout simplement de rendre le pouvoir aux citoyens et de cultiver un autre rapport au pouvoir. Celui d'exercer le pouvoir non pas sur, mais avec les gens. Comme tu l'as dit, ça a donné lieu à beaucoup de rencontres, des échanges très sincères et nourrissants, et un programme vraiment de qualité qui a été viable et concerté. Par contre, c'est vrai que par rapport aux partis politiques traditionnels, on ne disposait pas de toute la machine de guerre dont dispose un candidat sortant, celui de pouvoir inonder les boîtes aux lettres, par exemple, de tous les habitants, ou d'utiliser des mailings que nous n'avions pas. Ceci dit, nous étions aussi un peu à contre-courant de toutes ces représentations habituelles. Voilà. Sans compter le fait que la situation sanitaire et les conditions dans lesquelles s'est déroulé le premier tour ont favorisé les maires en place du fait du caractère éminemment anxiogène de ce que nous vivions. Et ça, on l'a bien remarqué quand on faisait du porte-à-porte, que beaucoup d'habitants préféraient se retrancher derrière les formes de délégation habituelles ou dans un vote de rejet du politique ou encore dans l'abstention. C'était pas facile.
C'était une belle aventure, je crois que ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que faire de la politique autrement et puis être à l'écoute en fait, et on se l'était dit, une campagne permanente qu'il faudrait imaginer. Et tout à l'heure, on parlait de Tristan Rechid qui a accompagné le processus comment participatif justement Saillant. Pendant 5 ans à Saillant. Il était venu pour nous former avec le collectif de romans. Et il est déjà reparti. Il est déjà reparti sur les routes. Il y a actuellement d'autres collectifs d'habitants qui se préparent en fait à prendre le pouvoir d'ici 5 ans. Et oui. Les choses se passent aussi dans la rue. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Je vous propose qu'on écoute à présent « C'est dans la rue que ça se passe » de la compagnie Jolie.
Alors, on va parler de cette expérience de Saillant qui est effectivement très présente à nos esprits. De 2014 à 2020, en fait, Saillant, qui est une petite commune du Val-de-Drôme, de 5000 habitants tout de même, a expérimenté dans sa gestion municipale un modèle de démocratie participative citoyenne. Juste deux mots pour dire que cette participation citoyenne n'est pas le fruit d'un pur hasard et qu'elle était finalement, elle s'inscrivait dans un terreau qui était très favorable. Saillant est quand même une commune qui a un passé en fait assez important du point de vue de la participation à la Révolution française, un passé de résistance, etc. Et puis il y a surtout eu un combat avant les élections municipales, un combat qui a été mené les habitants contre l'installation d'un supermarché en périphérie de la ville et qui a permis de finalement fédérer les gens contre quelque chose. Et à l'issue de cela, s'est créé un collectif, un café associatif qui ont créé tout un bouillon en fait culturel et un bouillon de volonté de participation. Ces gens-là, du coup, à l'issue de ce combat, eh bien, avant les municipales, ils ont décidé en fait de plancher sur les priorités de la commune en s'affranchissant du fonctionnement habituel de la démocratie représentative avec une tête de liste et un programme qui serait défini à l'avance. Et eh bien, ils vont gagner des élections, surpris eux-mêmes par ce succès. Ils vont avoir presque 57% des voix dès le premier tour avec 80% de participation.
En effet, c'est vraiment assez... Il y a de quoi se réjouir, en fait, de tel taux de participation. peut-être aussi souligner que là, les différents éléments de compréhension, d'analyse sont issus, entre autres, hein, d'un livre qui s'appelle « La petite République démocratique de Saillant », qu'a écrit Maude Dugrand, qui a habité Saillant et qui est journaliste. Alors, on peut se projeter dans le temps. Donc, 2014, on fait un bond. 2020, quelles ont été les particularités de ce mandat? Un petit bilan rapide, qualitatif et quantitatif. Il y a eu 93 événements participatifs auxquels ont participé 434 personnes, soit 10% de la population, dont 46%, attention, accrochez-vous, ont participé une fois, 26% deux fois, 14% entre 3 et 5 fois, ça décline, et 12% plus de 6 fois. C'est-à-dire que c'est dur de tenir dans la durée, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui s'est essoufflé. Si on compare pour une ville de 100 000 habitants, eh bien, ça aurait représenté 30 000 participants, notamment pour la révision du plan local d'urbanisme, ce qui est vraiment considérable. Pour autant, la démarche de démocratie directe n'a pas pu être conduite puisque la liste citoyenne qui s'est présentée en 2020 n'a pas été réélue. Mmh. Seules 3 personnes, ça c'est la mauvaise nouvelle, hein, c'est une grande déception des élections 2020, c'est-à-dire que... la liste citoyenne a perdu les élections. Il y avait seulement 3 personnes de l'ancienne liste qui se représentaient. En fait, il y a eu des difficultés récurrentes. Et on peut quand même expliquer en partie pourquoi ils n'ont pas été réélus. Bernard, est-ce que tu peux nous apporter des éléments de compréhension ?
On peut donner des éléments simplement du documentaire. Moi, c'est plutôt ce que j'ai retiré d'important. Mm-hmm. C'est que dans ce que disaient les participants, c'est que beaucoup regrettaient finalement qu'on n'ait pas eu un manque d'élaboration, mais vraiment en amont et par les citoyens, des objectifs politiques qui permettent de donner un peu un sens, une direction aux actions menées. C'est-à-dire que là, les gens ont participé effectivement à plein d'actions. Mmh. Des actions très disparates, la révision du PLU, les fleurs, une crèche, enfin...
Le compost.
Le compost. Mais en fait, ce qui vraiment, et c'est eux-mêmes qui le disent, ils ont l'impression que ça manquait de vision,
de cohésion.
D'unité, de cohésion politique. Mmh. Ce qui pose d'ailleurs... je rebondis sur Diolfi. Diolfi dit il faut venir... Justement, c'est un peu la tension qu'il y a entre venir avec un avec des objectifs et un programme avant les élections, ou alors essayer de construire ce programme avec les habitants pendant la campagne, mais ça, c'est pas facile non plus. Voilà, c'est ce genre de tension qu'il y a. Et je pense qu'il y a eu aussi des tensions entre des groupes sociaux qui ont été amenés à travailler ensemble, mais qui n'étaient pas forcément... qui n'avaient pas la même histoire, entre les natifs, ceux qui sont enracinés, qui ont des terrains, qui ont des propriétés, entre les journaliers, saisonniers, les précaires qui viennent là avec, par exemple, des yourtes pour essayer de s'installer. Mmh. Tout ça fait que ces gens ont travaillé ensemble, mais il y avait peut-être à un moment un manque d'homogénéité ou qui a pu se faire en amont. D'autres disent, on constate aussi une inégalité d'accès selon le temps disponible susceptible d'être dégagé par chacun pour participer au dispositif. Mmh. Mais il y a aussi une inégalité dans les facilités d'accès à la parole qui privilégie les grandes gueules, souvent des hommes aussi d'ailleurs.
Oui, c'est vrai qu'il y a un adjectif qui revient souvent pour parler de ces processus participatifs, c'est chronophage. Ça prend du temps et puis y a les écueils habituels, tu les soulignes. On a justement interrogé un spécialiste pour avoir un avis extérieur ce qui s'est vécu à Saillant. J'ai interrogé Gérard Gasselin. Gérard Gasselin est urbaniste géographe. Il a dirigé un centre de ressources à Lille. Il est actuellement consultant au sein de l'association Solidarité Ville à Toulouse. C'est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement des démarches participatives. J'ai demandé à Gérard en quoi le fait de confier à un tiers extérieur marque une ambition en termes de processus réellement participatif de la part d'une collectivité. On écoute Gérard.
Alors, les processus participatifs qu'on connaît le plus souvent, c'est la réunion publique. Quand tu pose la question à un élu. Est-ce que vous faites des actions visant à favoriser la participation des habitants? Immédiatement, l'élu, il pense à une chose, c'est à réunion publique. Oui, je fais des réunions publiques. Voilà. Et ça, déjà, ça pose un problème. C'est la réduction des processus participatifs à l'aspect réunion. En fait, la réussite d'un processus participatif, ça passe par différentes conditions. Alors, moi, j'en vois trois ou quatre que je vais énumérer rapidement. D'abord, il faut une réelle volonté politique. Et cette volonté politique, elle ne se manifeste pas au niveau du discours, elle se manifeste déjà à partir du budget. Hein, parce que souvent, les démarches participatives, on considère que c'est un peu la cerise sur le gâteau et on ne donne pas les budgets suffisants pour aller à la rencontre des citoyens et pour favoriser leur expression. Donc, la question de la volonté politique qui s'exprime à travers le budget, mais qui s'exprime également à travers les règles du jeu qui sont fixées. Moi, je préfère plutôt que de parler de participation, je préfère parler de négociation. Et il faut que les règles du jeu soient précisées par l'élu ou par le responsable, le maître d'ouvrage qui demande cette concertation. Et donc, il faut qu'il précise les règles du jeu et notamment ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Il y a des choses sur lesquelles la municipalité a pris des engagements politiques, par exemple, et qu'elle ne veut pas négocier. Par contre, il y a d'autres points sur lesquels il y a des marges de manœuvre et la participation peut porter là-dessus. Un autre point très important, c'est bien distinguer la participation de la communication. Les habitants, quand ils vont dans une réunion, souvent ils ne disposent pas des mêmes informations que les techniciens ou les élus qui se sont déjà penchés sur le dossier et qui ont un avis sur la question. Et malheureusement, on ne prend pas le temps d'informer et de former préalablement les citoyens à une démarche participative et à la compréhension des enjeux du territoire sur lequel on veut réaliser une opération d'aménagement ou d'habitat, etc. Et on ne prend pas le temps de les informer de l'ensemble des contraintes et des orientations que la municipalité souhaite prendre sur ce terrain. Ça me fait penser d'ailleurs à la Convention citoyenne, où il y a eu tout un travail préalable des personnes qui avaient été sélectionnées pour se former sur la question. On n'est pas expert en tout, et si on veut pouvoir débattre de façon équilibrée, eh bien, il faut que les gens aient la formation et l'information préalable.
Il faut prendre du temps. Le temps des habitants, ce n'est pas forcément le même temps que celui des élus. Savoir et souhaiter donner la parole aux sans-voix, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas non plus, qui fait appel à des vraies compétences. Et il y a aussi quelque chose qui est finalement un risque au travers de ces démarches participatives, c'est le risque de manipulation. Donc l'intention est louable, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce sur quoi aussi Gérard Gasselin revenait dans un échange suite à ce témoignage, c'était sur le fait qu'il n'existe pas en fait de modèle type de processus participatif. Tout l'art que déploie un animateur extérieur professionnel, c'est de pouvoir justement s'adapter en termes d'outils. Et il a insisté sur la qualité d'écoute. Il faut dire qu'un des procès souvent qu'on fait aux habitants quand les gens s'impliquent dans un processus auquel ils sont invités, c'est d'être tentés et de mettre trop souvent en avant leur intérêt personnel dès lors qu'on leur donne la parole ou droit de cité. Et ce que nous expliquait cet urbaniste géographe, c'est que, en fait, ce temps, c'est un temps d'apprivoisement mutuel. Les personnes se livrent, elles partagent un attachement au territoire, ce qu'elles sont, et ça permet de créer de la confiance pour ensuite passer à une approche d'intérêt collectif. Donc, c'est plus un processus connu par lequel on passe et qui aboutit à pouvoir parler et prendre conscience d'un intérêt commun. Pour prendre justement un petit peu de hauteur et considérer quel champ est propice à parler de démocratie directe, Bernard, je trouve que on pourrait à nouveau s'intéresser au contrat social de Rousseau. Est-ce que tu peux justement nous raviver la mémoire quant au contrat social de Rousseau?
Parler du contrat social de Rousseau maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que par rapport à ce que tu viens de dire et ce que disait Gérard, c'est que ça pose vraiment le problème de l'égalité des citoyens dans un processus de ce type. Et Rousseau, justement, pose ce problème, en fait, en disant que pour arriver à vraiment faire de la démocratie directe, il faut passer un contrat social. Et dans ce contrat social, il faut que les gens soient égaux entre eux. Et ça veut dire quelque part qu'il faut qu'ils aient un même niveau d'information, un même niveau de connaissances, un même niveau de... Bon, pas forcément un même niveau de capital culturel, mais en tout cas, il faut qu'ils arrivent à un moment à avoir... qu'ils puissent échanger de façon à égalité, en ayant tous conscience de cela. Et c'est ce que Rousseau appelle comment incarner la volonté, comment en fait la souveraineté du peuple peut s'incarner. Il parle de la volonté générale. La volonté générale, en fait, pour lui, c'est la volonté de chaque citoyen dans un État qui est juste, en tant qu'elle vise le bien commun de la société à laquelle il appartient. Voilà, cette volonté générale, elle permet au corps politique de former un moi commun qui a une sensibilité commune. Donc, l'interrogation que je me pose, sans rentrer plus dans le détail, puis je pense qu'on arrive quand même un petit peu au terme de cette émission, c'est comment, en fait, arriver à retrouver cette volonté générale du moi commun dans des expériences de démocratie directe, je dirais même dans des conditions idéales de petites communautés, mais comment retrouver cette volonté dans nos sociétés où le corps social est vraiment de plus en plus éclaté entre des individus ou des groupes d'individus qui ont souvent des valeurs, des goûts, des sensibilités différents. Aussi entre ceux qui, comme tu disais tout à l'heure, ceux qui sont sans voix, qui par leur statut social n'ont pas les codes, n'ont pas la facilité de prise de parole qui leur permettent de participer. C'est bien ces gens-là qu'il faut aller chercher pour faire de la démocratie directe, sinon on en oublie beaucoup. Donc ces clivages, voilà.
Et sur les conditions que met en avant justement pour qu'advienne cette capacité à pouvoir exercer sa souveraineté, il y a plusieurs termes qui reviennent. Il y a l'égalité, puis un autre terme, il y a celui de frugalité, que je trouve d'une actualité incroyable, parce que tout frugalité, on pense aussi à sobriété heureuse. C'est étonnant de relire Rousseau.
Tout à fait. Il met en avant le fait que si dans un groupe, dans une communauté, il y a des gens qui sont riches et qui ont beaucoup de revenus, de culture, ils seront forcément dominants en fait sur les autres, parce qu'ils vont d'abord vouloir faire passer leurs intérêts personnels avant celui du commun. Mmh. Alors que la frugalité, enfin la sobriété, peut amener les gens à avoir beaucoup moins finalement d'ego et aller plus vite vers quelque chose de commun. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et moi, je proposerais, c'est un peu étonnant, mais de finir sur un témoignage que j'ai écouté dans Les Chemins de la philosophie de Frédéric Brahimi, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il parle en fait de la différence entre le besoin de distinction et la fureur de distinction des gens qui sont riches et qui ont beaucoup de pouvoir. Il dit que c'est normal que dans une dans la démocratie directe, effectivement, chacun veuille vouloir se distinguer, c'est fait partie de l'amour propre de chacun, mais passer de la volonté de distinction à la fureur de la distinction peut nous éclairer sur les écueils qui peut y avoir quand on est trop inégalitaire dans un groupe pour faire de la démocratie directe. On peut écouter donc Frédéric Brahmi.
La situation sociale du peuple fait que, de toute façon, il n'est pas pris dans les mêmes jeux d'amour-propre que dans les classes supérieures.
Pourquoi
dans les...
Parce que dans les classes... Plus on est pauvre, moins on a le temps de...
Mais c'est pas ça, c'est que... C'est... Bah, c'est... Si vous voulez, quand on est pauvre, il n'y a pas énormément de points de différence. Il y a une telle égalité matérielle, sociale entre les pauvres que la fureur, le goût de la distinction qui est présent partout dès lors que les hommes sont dans des situations de socialité, le goût de la distinction ne peut pas en venir à un point de fureur.
Vous pensez ?
Oui, je pense que, quand vous n'avez pas de quoi vous distinguer trop...
Il y a toujours
de toute façon
de quoi se distinguer. Non, mais... Il y a dans une cour d'école un tel habit, telle trousse, tel cartable.
Pas par l'argent, et donc, mais bien sûr, il y a le besoin de se distinguer est constitutif de la vie sociale. Dès lors qu'il y a société, chez Rousseau, il y a amour propre. Et l'amour propre, c'est le besoin de se distinguer. Mais il ne faut pas confondre le besoin de se distinguer et la fureur de se distinguer. Et la fureur de se distinguer, évidemment qu'elle s'emballe dès lors qu'il y a les moyens matériels pour se distinguer. Des gens qui ont des revenus à peu près équivalents vont chercher à se distinguer par la beauté, par je ne sais quoi, tout ce que vous voulez, mais pas par la richesse et du coup pas par la domination sociale, au sens où l'avidité, c'est-à-dire la supériorité et l'inégalité des richesses, est pour Rousseau le moteur quand même fondamental de la domination.
Voilà, ça nous perche un peu, mais je pense que c'est quand même un point, moi je trouve que auquel je suis assez sensible, parce que je pense que c'est des problèmes qu'on retrouve un peu dans toutes ces expériences de démocratie directe, et ça pose le problème de changer aussi les choses aussi par le haut pour arriver à plus d'égalité en fait. On a besoin de plus d'égalité pour permettre peut-être à tout le monde en fait de rentrer dans cette aventure de démocratie directe. Je ne sais pas ce que tu en penses, Audrey, pour finir.
Je suis assez d'accord avec le préalable qui serait finalement de travailler sur une meilleure répartition des richesses, y compris au niveau local. Et d'ailleurs, il y a plusieurs communes qui lancent l'équivalent des revenus minimums vitaux. Preuve qu'on peut aussi expérimenter localement avant même d'en passer par un État encore très centralisateur en France. Moi, ça me parle, ça me plaît beaucoup parce que il y a aussi une dimension d'utopie. Le contrat social de Rousseau, c'est une grande histoire, c'est un récit qui nous lie et aujourd'hui, on manque un petit peu d'horizon commun. Donc, merci d'avoir... rappeler à quel point il y a des auteurs qui sont d'une incroyable actualité, en fait. Ça fait du bien. On arrive au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine. On ne sait pas encore sur quel sujet on travaillera, mais merci de votre écoute et à bientôt.
Merci.
Respirer un air meilleur, ça change mon bout de périphérique.
On s'amuse à aménager, mais enfin, ça n'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se contenter d'habiter, de cohabiter, de discuter. Moi, je parle du dialogue.